Drôle de page d'évangile. On se demande bien pourquoi la Sainte Église catholique a relié ces deux textes qui semblent si différents. D'une part, cette histoire de femmes, d'hommes mariés, adultères et autres, et d'autre part, les enfants mis au milieu des disciples. D'habitude, ces deux textes sont entendus séparément. Il va falloir creuser un petit peu. Écoutez-moi bien. Cette page d'évangile commence au moment où Jésus entre en Judée. Et c'est le début de notre texte. Et avec cette entrée en Judée, Jésus va être confronté à ces pharisiens, à ces scribes qui veulent lui faire la peau. À la fin du texte, Jésus quitte l'endroit où il est. Donc on a bien là un seul moment, un seul événement de la vie de Jésus. C'est bien un seul et même texte. Attention, le début du texte nous donne un indice encore plus important. On nous dit « Des pharisiens abordèrent Jésus pour le mettre à l'épreuve », ou bien encore, on pourrait dire, pour l'éprouver. Qui, au tout début de la vie de Jésus, éprouve Jésus? Qui essaye de le faire tomber? Le diable. Dans le désert, Jésus est mis à l'épreuve. Et bien là, dans ce texte, cette tentative d'ébranler Jésus va devenir de plus en plus croissante. Et Jésus va répondre à ces pharisiens. Vous avez remarqué qu'il y a, dans cette première lecture que nous avons entendue tout à l'heure de la Genèse, le récit entier de ce qui intéresse Jésus et les pharisiens, ce moment de la création de la femme pour l'homme. Mais quel lien y a-t-il, un peu plus facile, entre la première lecture et l'évangile que nous venons de lire? Cette première lecture, l'auteur s'amuse beaucoup. Il écrit son texte au 3e siècle avant Jésus-Christ. Oh, il n'invente pas beaucoup de choses. Il y a d'autres textes qui ont été écrits dans la Mésopotamie ancienne et que même les Grecs ont récupérés, qui nous disent des choses à peu près semblables. Juste un petit extrait pour vous mettre en appétit. La déesse Mami prit 14 poignées d'argile. Elle plaça 7 poignées à droite, elle plaça 7 poignées à gauche. Au milieu, elle plaça une brique. Et agenouillée sur une natte, ouvrit le nombril des figurines. Des deux groupes, 7 produisirent des hommes, 7 produisirent des femmes, etc., etc. Étonnant, hein ? Elle prend de l'argile. Un peu comme Dieu qui prend de l'argile dans la Bible pour créer l'homme et la femme. Mais l'auteur de la Genèse y met cette relation entre Dieu et l'homme, une relation où Dieu est le fondateur de la liberté humaine. Avec, vous savez, cette histoire d'arbre au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne faut pas toucher sous peine de mort. Et Dieu s'inquiète pour l'homme. Il se dit, comment va-t-il faire pour discerner ce qui est bien et mal, pour éviter d'être tenté? Et c'est ainsi que Dieu décide de créer la femme. Alors, le texte est imagé, on parle de la côtelette. Attention. Au-delà de la côte, on nous dit « Dieu referma la chair de l'homme ». Et nous voilà revenus à ce dont je vous avais déjà parlé, ce fameux bassar ou bachar hébreu. En fait, quand on parle de chair, on parle de la totalité du corps, le corps physique, le corps spirituel, l'âme, l'esprit, la vie, l'être tout entier. Et en réalité, l'auteur veut nous dire que de l'être tout entier de Adam, Adam tiré de la Adama, la terre, il va créer la femme. Mais de la totalité de l'homme, il va créer la totalité de la femme. Intéressant. Parce qu'il il fait cela avec une intention particulière. La femme n'est pas que la moitié de l'homme. La femme n'est pas que un morceau tiré de l'homme, comme si on enlevait quelque chose à l'homme. Du coup, si on comprend le Bachar. Mais la femme devient un plus pour l'homme. Une aide assortie, un complément, un ajout. Et cela s'entend mieux dans la façon culturelle des Juifs, des Hébraïsants, de comprendre cette création de la femme. Elle n'est pas un manque à l'homme de son côté, elle est un ajout. Et elle va pouvoir l'aider à discerner. Ensemble, ils vont pouvoir parler. Et effectivement, dans ce texte, nous avons bien Adam, l'homme, qui parle. « Ah, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, attention, le bachar de mon bachar, mon corps tout entier, elle est mon corps. » Tout de suite, ça change tout, hein, mesdames. C'est mieux comme ça. Et c'est cela qui est fait dans ce texte-là. D'accord ? Alors après, il s'amuse, l'auteur. Ah, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée Isha parce qu'elle est tirée de Ish. C'est facile. Et mais remarquez encore que même textuellement, nous avons un ajout. Ish, ça veut dire le mot homme. Isha, on a ajouté le A final. C'est la femme, c'est un ajout. Tout est ajouté pour être renforcé, pour lutter contre la tentation, la même tentation que Jésus subit face aux pharisiens. Et le texte, celui-ci, se termine en disant « L'homme quittera son père et sa mère, ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. » Non. Désolé les enfants, ce n'est pas encore pour vous là. Il quitte son père et sa mère et ensemble, ils ne forment plus qu'une seule chair, à sous-entendre, bassar. Ils ne forment plus qu'un seul corps, une unité de vie, une unité d'être, qui dit déjà l'unité de la vie en Dieu. Dans l'évangile que nous avons lu, Jésus renvoie à ce texte-là. Mais dites-moi, ce que disent les pharisiens à Jésus. Moïse nous a dit, tatati, tatata, on peut, avec un contrat, faire une rupture d'alliance. Alors là, mesdames, c'est pas bon pour vous, ce que je vais lire. Je suis allé rechercher ce fameux texte dans la Torah qui parle de cette rupture de contrat de mariage. Écoutez bien, c'est dans le livre du Deutéronome. Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse et qu'elle cesse de trouver grâce à ses yeux parce qu'il découvre en elle une tare, il lui écrira une lettre de répudiation et la lui remettra en la renvoyant à sa maison. Une tare. Mesdames, est-ce que vous avez une tare? Je ne crois pas. Souvent, lorsqu'un homme épouse une femme, dans l'Antiquité, et qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, selon la culture, il est obligé de la renvoyer à son père, à elle. Il ne peut pas la garder parce qu'elle ne lui donnera pas de descendance. C'était comme ça. Je continue le texte. Si cette femme, après avoir quitté la maison, épouse un autre homme, si ce deuxième homme se met lui aussi à la détester, lui écrit une lettre de répudiation, la lui remet et la renvoie de sa maison, Ou encore, si ce deuxième homme vient à mourir, son premier mari ne peut la reprendre pour femme. Le premier, s'il avait envie de revenir, trop tard. Tu lui as trouvé une tare, c'est toi qui es taré. Tu te débrouilles maintenant. Jésus aurait pu dire aux pharisiens, ce texte-là n'est pas valable par rapport à ce que vous dites. Parce que ça, ce texte-là, il parle uniquement de circonstances vraiment, vraiment particulières. Même si ce n'est pas forcément très terrible pour nous. Mais c'est pour des circonstances vraiment particulières. Un homme ne peut pas renvoyer sa femme comme ça. Il faut qu'il y ait un motif valable. Ce qu'oublient de dire les pharisiens. Mais Jésus préfère leur renvoyer à Moïse, mais au livre de la Genèse, qui, pour la tradition juive, reste un des cinq livres de Moïse. Et il les renvoie à ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Voilà pour les hommes et les femmes et le témoignage qu'ils portent de l'unicité de Dieu en eux, en étant un seul corps. Reste la question des enfants. Mais pourquoi cette deuxième partie du texte est accrochée à ça? Tout simplement, les enfants, écoutez bien, c'est pour vous. Tout simplement parce que les enfants, quand ils réfléchissent, quand ils donnent une réponse à une question qu'on leur pose, lorsqu'ils essaient d'approfondir une question, ils ne vont pas donner une réponse à partir uniquement de leur cerveau. Ils vont donner une réponse à partir de la totalité de leur bachar, de la totalité de leur être. Et peut-être que la réponse viendra peut-être de leur âme, peut-être de leur corps physique, de leur être tout entier. Ça me fait penser au film là avec l'Indien, là, Millionary, là, Christian Millionary, le film où le jeune Indien il répond à tout un tas de questions et il répond à chaque fois juste, il va gagner des millions. Hein? Voilà, Slumdog Millionaire. Il répond à partir de quoi? À partir de son vécu, de sa vie, de son histoire personnelle. Les enfants sont plus attentifs à ça que les adultes. C'est pourquoi Jésus les met au milieu d'eux. Parce qu'ils sont le signe dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, dans leur façon de donner des réponses, ils sont le signe de l'unité de Dieu. Tout simplement parce qu'ils sont comme ça. Ainsi, on peut faire vraiment l'unité textuelle entre ces deux éléments. Le couple, d'une part, dit l'unicité de Dieu, l'unité de Dieu, l'unité de vie, et les enfants aussi. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce texte-là, sans rentrer trop dans les détails, mais ça vous donne quelques éléments, en tout cas, de réflexion et peut-être de prière. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous avons à témoigner comme communauté de vie. Nous aussi, comme communauté de vie, nous avons à être le bachar, comme Église, le bachar de Dieu, le corps du Christ, pour témoigner auprès des hommes de ce Dieu qui nous aime et qui nous invite à sa vie.